Plaisir de vous retrouver, au moins celle qui était là l'année dernière. J'espère que vous avez bien écouté cette belle conférence à midi. C'est peut-être pas toujours facile, pris entre les gâteaux et écouter. C'est peut-être pas toujours simple. Mais vous voyez, Mgr Lefebvre nous disait, il faut prendre notre vie spirituelle au sérieux. Alors, eh bien, effectivement, grâce à Dieu, vous en êtes l'exemple vivant, puisque je pense, en venant dans une retraite ainsi, vous prenez votre vie spirituelle au sérieux. Alors ce matin, on vous a, selon le plan de la somme de saint Thomas, on a commencé à vous parler du bon Dieu, Dieu, les perfections divines, on vous a parlé de la Sainte Trinité. Donc vous avez contemplé Dieu, Dieu et ses perfections infinies. Et au fur et à mesure de votre vie spirituelle, quand vous méditerez un peu plus sur la Sainte Trinité, sur le bon Dieu, eh bien vous voyez qu'en Dieu, il existe, il possède un bonheur infini. En Dieu, bonheur infini. Dieu n'a besoin de personne pour être heureux. Besoin de personne. Il se suffit à lui-même. La Trinité sainte se suffit à elle-même. Mais il y a un grand principe naturel qu'on traduit en philosophie de cette façon-là, mais qui est très facile à comprendre. On dit « le bien est diffusif de soi », c'est-à-dire le bien cherche à se répandre. C'est quelque chose de très simple et nous le connaissons parfaitement. Quand vous avez du vague à l'âme, quand vous êtes malheureuse, vous avez une épreuve, rien ne va plus, personne ne vous aime, etc. Bref, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous renfermez sur vous. Ah oui, vous restez toute seule. M'embêtez pas, on se renferme sur soi. Vous rappelez-vous, je sais pas, on est passé par là, hein, les enfants, bouh, personne m'aime, on va tout seul dans sa chambre, on se met à pleurer, etc. Bah, oui, on ne cherche pas, je dirais, les autres, non, la compagnie des autres, non, on se replie sur soi-même. Eh bien, au contraire, lorsque vous êtes joyeuse, lorsque vous avez tout va bien, il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent, etc., tout va bien, eh bien, on va parler, on va se porter vers les autres, etc. Donc, automatiquement, quand tout va bien, on a envie de faire partager notre bonheur aux autres. Vous voyez, c'est ça, le bien est diffusif de soi. On cherche à rendre les autres aussi heureux, joyeux. Parce que ben, nous le sommes. Eh bien, c'est ainsi que Dieu a voulu faire partager son bonheur infini à des créatures. Il va créer des êtres, les anges, les hommes, précisément pour leur faire partager ce bonheur infini qui existe en lui. Et en plus, le bon Dieu va leur montrer le chemin. Comment pouvez-vous être parfaitement heureux? Donc, en venant vers moi, bien sûr, et je vais vous montrer le chemin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, faites ce que je désire, faites ma volonté et vous serez heureux. Donc, Dieu nous montre ce chemin. Si vous m'aimez, eh bien, observez mes commandements. Donc, Dieu va nous baliser le chemin. Voilà le but du bon Dieu. Nous rendre parfaitement heureux par cette création, nous faire venir à la vie pour un jour qu'on soit heureux. Mais, et c'est là où le bât blesse, c'est que malheureusement, ces créatures eh bien, se sont opposées à ce plan de Dieu. Ces créatures ont mal usé de leur liberté. Alors, elles ont commis ce qu'on appelle le péché. Alors, eh bien, c'est le sujet de cette conférence. Donc, nous allons voir d'abord la nature du péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Saint Augustin, le grand évêque d'Hippone, disait « Le péché est une action, une parole ou un désir en opposition avec la loi éternelle. » action, parole, désir en opposition avec la loi éternelle. Donc on voit, le péché est une transgression volontaire de la loi de Dieu. Si on définit ainsi le péché, on voit bien que c'est une désobéissance à Dieu. Désobéissance à Dieu et par là même une offense à Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que nous préférons notre volonté à la sienne, tout simplement. Et ainsi, on viole les droits imprescriptibles qu'il a à notre soumission. Bon. Tout ça, peut-être vous en a parlé, vous en entendrez dans différentes conférences, suppose évidemment reconnaître que nous sommes des créatures et donc que nous devons soumission à notre Créateur. Mais vous voyez tout de suite, effectivement, on transgresse la volonté de Dieu. Et c'est ça le péché. Donc on peut dire que c'est essentiellement un désordre. Le péché est un désordre. Parce qu'il s'attaque à l'ordre primordial établi par le Créateur. Il faut toujours bien avoir en vue qu'est-ce que Dieu a voulu au départ. Dieu, Créateur, crée donc l'homme, en l'occurrence, je ne parle pas des anges, donc les hommes. Donc, automatiquement, il y a une soumission que la créature doit à son créateur, puisqu'il cette créature tient tout de Dieu. Automatiquement, nous devons être totalement soumis. Et puis, dans l'homme aussi, Dieu a créé un ordre. Nous avons nos facultés spirituelles, l'intelligence, la volonté, et nous avons nos facultés sensibles, la sensibilité. Eh bien, Dieu l'a créé en ordre. C'est-à-dire que la sensibilité était soumise à notre volonté qui elle-même était sous l'influence de notre intelligence qui est faite pour le vrai, et la volonté, voyant ce vrai que lui présente l'intelligence, se porte vers le bien, et notre sensibilité, bien sûr, est ordonnée. Donc tout a été créé en ordre, si vous voulez. Eh bien, le péché, précisément, est un désordre. Il s'attaque à cet ordre voulu par le Créateur. Donc, si vous voulez, le péché, d'une certaine façon, insulte à l'ordonnateur en personne. C'est une insulte à celui qui a tout mis en ordre. Bien sûr, quand on pêche, on ne le dit pas aussi brutalement. Souvent, quand on commet des péchés, on n'a pas forcément cette intention de s'opposer directement à Dieu. Mais en pratique, ça revient à ça. En pratique, l'homme s'affranchit de la loi divine. Et donc proclame son droit à se gouverner lui-même, sans attendre ni précepte ni conseil, et sans avoir à rendre compte. Vous avez un auteur qui s'appelle le père Sineux. Vous connaissez peut-être ce livre qui s'appelle « Initiation à la théologie de saint Thomas ». Bon, le titre paraît effrayant, mais en réalité c'est très simple. C'est tout simplement un livre de doctrine qui résume, enfin, qui veut donner un goût à étudier ensuite bon, la somme de saint Thomas lui-même. Mais c'est un très bon résumé de la doctrine, donc vous pouvez tout à fait le lire ou voir l'acquérir si vous le souhaitez. C'est vraiment un très bon livre. Alors voilà ce que dit justement ce père Sineux. Donc l'homme entend user et abuser à sa guise et sans contrôle, en propriétaire capricieux et prodigue, des ressources de sa propre vie et des créatures dont l'usage lui est concédé pour un temps, dans le seul but bien déterminé de favoriser son essor vers sa perfection spirituelle et sa destinée éternelle. Puis, tel un fils qui, non content de dilapider les biens paternels, n'a plus qu'insolence pour ce père, dont la seule présence lui est un constant reproche. Le pécheur qui se plaît à saccager l'œuvre du Créateur en veut à Dieu de se trouver toujours là, témoin et juge de son jeu de massacre. Il voudrait éloigner ce regard gênant, le supprimer pour s'assurer l'impunité. Faute de pouvoir l'anéantir, il l'outrage et le blasphème, comme pour se convaincre qu'il l'abaisse ou l'intimide et paralyse son autorité. C'est bien vu. Alors aujourd'hui, concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, on fait tout pour oublier Dieu. On met les gens dans un brouhaha, si vous voulez, qui les empêche de réfléchir. Donc que ce soit tous les moyens techniques qu'on connaît aujourd'hui, ou que ce soit n'importe où. Vous allez dans une, je ne sais pas, vous êtes habitué, les grandes surfaces, automatiquement, d'abord, il y a du bruit partout, du bruit, ce qui est censé être de la musique, etc. Donc, et puis, il y a du brouhaha, et on veut nous faire oublier, tout simplement, de réfléchir, donc de revenir vers le bon Dieu. Vous voyez, c'est comme ça qu'effectivement, eh bien, l'homme se rassure, si vous voulez. Donc, comme j'oublie Dieu, bien maintenant, je fais ce que je veux. Donc, on viole la loi de Dieu. Ainsi, le péché, bien sûr, est le plus grand de tous les maux. Le mal par excellence, parce qu'il s'en prend à Dieu, bien suprême et source de vie. Ça, il faut bien se le rappeler. Bien sûr, si l'homme ne parvient pas à détruire Dieu, si le péché ne parvient pas à détruire Dieu, il réussit en tout cas à l'en priver, à priver l'homme de Dieu, et même à l'en séparer définitivement, malheureusement. Donc le péché peut causer la mort irrémédiable. Et c'est vrai que c'est la pire des ignominies quand on y songe, parce que d'enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, bien sûr, par le baptême, eh bien le chrétien devient fils de Satan. C'est sûr, on abandonne Dieu, eh bien c'est pour tomber esclave de l'autre, de l'ennemi, de Satan. Alors quand on voit cela, bien sûr, on peut dire, il n'y a rien de comparable à ce mal. Qu'est-ce que c'est, j'allais dire, tout le reste? Les revers, les souffrances, voire même la mort, qu'est-ce que c'est par rapport au péché? On a pu définir le péché comme étant le mal de Dieu. C'est vrai, on a dit le péché, c'est le mal de Dieu. Non pas, bien sûr, que Dieu puisse subir un détriment dans son être infini, ça c'est clair, dans son bonheur immuable. Mais si vous voulez, le péché quand même ravit à Dieu ce qu'on appelle une partie de sa gloire accidentelle, quelque chose de sa gloire accidentelle. Bon, la gloire essentielle, bien sûr, c'est le bonheur, c'est tout ce que Dieu trouve en lui-même dans la Sainte Trinité. Mais il veut que ses créatures viennent le louer. Eh bien, le péché va empêcher à des créatures de louer Dieu un jour dans le ciel. Donc, il y a une certaine atteinte à sa gloire accidentelle. Si vous voulez, ces êtres humains que Dieu a créés pour que ces êtres le connaissent, l'aiment, eh bien non seulement vont le dédaigner, on va dédaigner Dieu, non seulement on va se détourner de lui, mais encore on va se servir des propres dons de Dieu pour l'offenser. Tout ce que Dieu nous a donné, on va s'en servir pour l'offenser. Et vous voyez ainsi, c'est le comble de l'injustice, de l'ingratitude, du cynisme. Prenez un exemple très concret. Imaginez un de vos enfants, à qui vous avez tout donné, l'éducation, vous avez donné de l'argent, etc. Et bien avec cet argent, il va s'acheter une arme et il vient vous blesser avec cette arme. C'est-à-dire, quelle ingratitude. Pour ça, dans l'histoire de l'humanité, d'ailleurs, ce qu'on appelle les patricides, les matricides, ont toujours été considérés comme les crimes les plus odieux. Ça se comprend. L'enfant qui fait ça est au comble de l'ingratitude. Vraiment. Eh bien, c'est ça le péché. C'est-à-dire qu'on a tout reçu de Dieu, et bien les dons que nous avons reçus de Dieu, nous allons nous en servir pour s'opposer à lui. Quand on revoit ça, évidemment, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que le péché? Un autre auteur spirituel que vous connaissez bien, dans Marmion, a un chapitre là-dessus que vous pouvez lire, c'est dans « Le Christ vide l'âme ». Il commente sur « Le péché, a-t-on dit, est le mal de Dieu. Ce terme, comme vous le savez, n'est strictement exact que selon notre façon de parler, car la souffrance est incompatible avec la divinité. Le péché est le mal de Dieu parce qu'il est la négation par la créature de l'existence de Dieu, de sa vérité, de sa souveraineté, de sa sainteté, de sa bonté. Que fait cette âme dont je vous ai parlé en accomplissant librement une action contraire à la loi de Dieu? Mais pratiquement, elle nie que Dieu soit la souveraine sagesse et qu'il ait le pouvoir d'établir des lois. Pratiquement, elle nie la sainteté de Dieu et refuse de lui donner l'adoration qu'il mérite. Réfléchissez à tout ça, c'est vrai. Pratiquement, elle nie que Dieu soit la toute-puissance et ait le droit de réclamer l'obéissance des êtres qui tiennent la vie de lui. Elle nie que Dieu soit la bonté suprême, digne d'être préférée à tout ce qui n'est pas elle. Elle ravale Dieu au-dessous de la créature. Non serviable, je ne vous reconnais pas, je ne vous servirai point. Cette âme répète cette parole du rebelle au jour de sa révolte. Et oui, c'est ça le péché. Encore une fois, de manière pratique, je ne dis pas forcément spéculativement, parce qu'encore une fois, on sait très bien, malheureusement, on a pu commettre des fautes, même peut-être des fautes graves. Même en commettant des fautes graves, on n'a pas forcément l'intention d'insulter Dieu, etc. Non, je ne dis pas que ce soit spéculatif, mais c'est en pratique, ça revient à ça. C'est ça en pratique, ce que dit très bien Don Marmion. En pratique, on se fiche complètement la loi de Dieu. On s'en fiche. On fait ce qu'on veut. Il n'y a que ça qui m'intéresse. On nie la sainteté de Dieu. On nie qu'il est le Créateur, eh bien, à qui nous devons obéissance, etc. Ça, de manière pratique, oui, on le nie. Vous voyez, après, comment peut-on parler de petits péchés mignons? Mais non, il n'y a pas de péché mignon. C'est parce qu'effectivement, on offense le bon Dieu. Bon, après, on va voir, bien sûr, plus ou moins gravement, mais néanmoins, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez, le péché, la nature du péché, essentiellement un désordre. On s'attaque vraiment à l'ordre voulu par Dieu. Donc, vous voyez, si vous avez bien compris cette définition, le péché, on peut dire, est mal de Dieu, on s'oppose à Dieu. Après la nature, voyons la cause du péché. Eh bien, les causes, on peut dire, on peut voir d'abord des causes internes. La cause qu'on appelle efficiente du péché, c'est-à-dire celle qui produit le péché, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notre volonté libre. Volonté libre de l'homme. Bien se dire, c'est de la volonté que naît le péché. S'il n'y a pas la volonté qui s'exerce, il n'y a pas de péché. Donc le péché est dans la volonté. Bon, on verra après, effectivement, des conséquences très, très pratiques. Justement, dans les conditions, quand on voit des fautes, eh bien, s'il n'y a pas l'acte de volonté, il n'y a pas de faute. Mais c'est d'abord la volonté, on s'oppose à Dieu. Elle est capable de pécher parce qu'étant naturellement imparfaite, eh bien, elle va mal utiliser, elle va abuser de sa liberté. La volonté va abuser de sa liberté. Elle va préférer les faux biens aux vrais biens. Et on le fait de manière totalement libre. Donc c'est elle qui est la cause du péché. L'ignorance, alors quand elle est ce qu'on appelle l'ignorance vincible ou volontaire, est aussi une cause indirecte du péché, parce qu'elle pourrait, par la connaissance du péché, et bien précisément l'éviter. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, exemple très simple, « Ah ben je ne veux pas savoir ». Vous savez, tout simplement, ah ben je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir si c'est péché ou pas, non, je ne veux pas le savoir. Comme ça, je suis libre, je fais ce que je veux. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle une ignorance vincible. C'est-à-dire qu'on peut vaincre, mais on ne veut pas la vaincre. Eh bien, évidemment, dans ce cas-là, on est responsable du péché que l'on commet. Évidemment. Par contre, l'ignorance invincible, c'est celle, on connaît, mais il n'y a aucune faute de notre part. On n'a a jamais, bon, bah, c'est le cas des, je sais pas, on n'a jamais entendu parler de tel point de morale, ou on nous a jamais dit ça, et puis on a, bon, bah, je sais pas, on nous a jamais dit, je sais pas, bah, je savais pas que voler 100 euros était un péché mortel. Enfin bon, etc. Bon, l'ignorance, au contraire, celle qui veut pas savoir, évidemment, c'est une source de péché. Cause indirecte, parce que précisément, on aurait pu éviter des péchés si on s'était renseigné. Ça, c'est les causes internes. Donc, bien sûr, d'abord notre volonté. Ensuite, les causes externes. Qu'est-ce qui va nous pousser au péché? Bien sûr, c'est le démon. Ça, c'est clair. Alors peut-être déjà, là aussi, bien le savoir, le démon n'est pas tout-puissant. Il faut bien se rendre compte, il n'est pas tout-puissant. La conscience humaine lui reste fermée. C'est-à-dire que Dieu, oui, est dans notre conscience, nous connaît parfaitement. Mais le démon, non. Le démon reste à l'extérieur. Donc le démon n'est jamais dans notre conscience, si vous voulez. Alors vous allez dire, mais les cas des possédés, par exemple. Eh bien, bon, d'abord, c'est extrêmement rare, premièrement, donc ne vous croyez pas possédé, comme ça. Et puis, deuxièmement, il possède le corps. C'est-à-dire que par une permission divine, effectivement, il possède le corps d'une personne. Donc, il agit avec les sens de la personne. Mais la personne, elle, même si elle perd conscience, elle reste libre. Donc le démon n'est pas dans l'âme de la personne. Non. Non, non, pas du tout. Donc si vous voulez, là aussi, je vous dis ça pour que vous soyez d'une façon rassurée. Le démon reste toujours à l'extérieur, hein, de l'âme. Il n'est pas dans notre âme. Non. Mais le démon, il est quand même un ange. Même si c'est un ange déchu, il reste un ange. Donc il a une intelligence supérieure à la nôtre. Alors, eh bien, il va avoir la perspicacité d'un pur esprit. C'est-à-dire qu'il va deviner, dans les moindres indices extérieurs, eh bien, l'état de l'âme. Il va voir comment on réagit, etc. Il va voir leurs secrets désirs. Il va repérer nos points vulnérables. Donc c'est comme ça qu'il va pouvoir nous manœuvrer. Mais il ne va pas nous manœuvrer de l'intérieur. Bon, prenez évidemment ce que vous connaissez par cœur, vous, surtout je pense aux mères de famille. C'est classique avec les enfants. Vous allez deviner les bêtises qu'ont fait vos enfants à leur attitude, à leur façon dont ils vont vous répondre. À toi, t'as fait une bêtise. Non, maman. Et puis bien sûr, tout de suite, vous allez deviner. Bah, tiens, pourquoi tu as les lèvres toutes rouges? Hein? Je t'avais bien dit de ne pas manger des framboises dans le jardin. Ah, j'en ai pas mangé. Puis il a tous les lèvres rouges, et puis plein de taches partout. Bah oui. Ah non, non, j'ai. Non, bah. Donc, bref, hein, les mamans, elles ont ça. Bon, en plus, vos 6e, 7e, 8e sang, je ne sais plus. Donc, vous allez deviner. Vous allez deviner, eh bien, comment réagissent vos enfants. Bah oui. Bah, le démon, il fait ça, mais à la puissance X. Parce qu'effectivement, il a la perspicacité d'un pur esprit. C'est comme ça qu'il peut connaître nos points faibles. Et puis ensuite, eh bien, il va guetter l'occasion favorable et puis il va nous tenter. Alors, vous connaissez l'office des complies, on les a chantés déjà hier, on va les chanter cette semaine. Eh bien, la première chose que nous fait lire l'Église dans cet office, c'est ce passage de Saint-Pierre, première épître de Saint-Pierre, chapitre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Sic quid quaeremsquem devoret. Sic ut leo rugiens, comme un lion rugissant, un démon. Eh bien, c'est Saint-Pierre qui nous dit ça. Et vous voyez, tous les soirs, on répète à l'office de complies cette phrase. Donc, effectivement, attention, le démon rôde. Qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, le démon, lui, encore une fois, il reste à l'extérieur, mais il veut exciter notre volonté à commettre le mal. Et donc, pour cela, il va agir sur notre imagination, sur nos facultés sensibles, de telle manière qu'ensuite, notre volonté soit poussée à commettre le mal. Première cause externe du péché, le démon. Ensuite, une autre cause, et là, c'est excessivement important, bien sûr, vous le savez, mais il faut toujours se le rappeler, eh bien, c'est notre nature blessée par le péché originel. Ça aussi, n'oublions pas cela. Bon, vous connaissez cet épisode du péché originel, évidemment, comment Dieu a créé Adam et Ève. Donc ça, c'est de foi, hein. C'est pas un conte pour enfants sages ou je sais pas quoi. Non, ça, c'est révélé par Dieu, c'est dans la Sainte Écriture. Donc, il est vrai, réel, Adam et Ève ont bien existé un jour. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une histoire. Non, c'est la réalité. Donc, cette réalité, eh bien, Dieu nous l'a révélée, effectivement. Donc, bon, on le trouve dans le livre de la Genèse, dans le livre de la Bible. Mais là aussi, c'est qu'un fait historique. Donc, attention de ne pas nous faire prendre par tous les... Enfin, les opinions d'aujourd'hui où on vous rit au nez si vous croyez à Adam et Ève. Quoi. Non, pour eux, ils préfèrent croire que l'évolution, ils préfèrent ça. Ils préfèrent dire, ah ben voilà, ma grand-mère, la Guenon. Ils préfèrent tenir cette thèse-là. Non, moi non, pas du tout. Non, bref, donc c'est Adam et Ève, c'est une réalité. Réalité. Donc vous connaissez, mais ils ont été créés dans un état de justice originelle avec l'état de grâce, puis des dons, etc. Et puis Dieu leur avait fait cette défense de manger du fruit d'un arbre, et puis ben, vous connaissez, Ève s'est fait avoir, et Adam s'est fait avoir par Ève, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et puis, ben voilà, quelles sont, disons plus exactement, plus intéressant pour nous, quelles sont les causes de ce péché? Bien sûr, le premier, primordial, c'est l'orgueil. Vous serez comme des dieux. Comme Dieu connaissant le bien et le mal. Donc, voyez, nos parents, Adam et Ève, ils ont voulu s'égaler à Dieu, devenir Dieu, sans la grâce. C'est ça le formel, comme on dit, du péché originel. Désir de similitude dans la science du bien et du mal. Aussi dans ce Père Sineux, un passage qui explique très bien, en résumé un peu tout ça. Il ne s'agit de rien moins que d'une rébellion ouverte. Un fruit défendu. Interdiction puérile, dit-on. Et la faute ne va pas au-delà d'une vulgaire gourmandise ou d'une curiosité d'enfant terrible? Quelle disproportion dès lors entre le péché et le châtiment? Pourquoi surtout faire rejaillir sur toute l'espèce humaine les conséquences d'une faute dont toute la responsabilité incombe à son premier représentant? Objection courante, mais qui témoigne d'une ignorance totale de la question. Donc si vous vous êtes fait ces réflexions, ben, vous êtes totalement ignorante. La désobéissance d'Adam et d'Ève ne se produisit pas sous une poussée de sensualité anodine parce que le fruit était beau et paraissait délectable. La prohibition n'avait été portée que comme un signe de subordination de l'homme à Dieu. La transgression avait donc avant tout un caractère d'insubordination. C'est défendu, je le sais, mais je ne l'admets pas et j'en fais à ma tête. Voilà, en résumé, si ça veut dire ça. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas l'insignifiance de la chose, mais la gravité du précepte. Et cette science du bien et du mal qu'à la suggestion de Satan, nos premiers parents entendaient conquérir à leur tour, n'était pas seulement l'ambition de savoir où était le bien et le mal, car il savait déjà, et le déclarait dans l'instant même, que le bien consistait dans la soumission à Dieu et que le mal proviendrait de la désobéissance. Mais à cette vérité, ils ont voulu en substituer une autre de leur cru, ils se sont estimés assez grands et assez raisonnables pour savoir eux-mêmes ce qui est bien et mal, pour décider ce qu'ils avaient à faire sans relever de personne. C'était signifier à Dieu sans embâche qu'ils répudiaient son commandement et qu'ils entendaient désormais se gouverner seuls. Cette insurrection arrogante ne méritait-elle pas une punition exemplaire? Au surplus, la menace planait depuis l'origine, et les coupables n'avaient pas même l'excuse d'ignorer les conséquences fatales de leur attitude. « Si vous mangez de ce fruit, vous serez frappés de mort. » Était-ce assez clair? Oui, il faut revenir à ça. Non, c'était un précepte formel de Dieu. Si vous en mangez, pardon, vous mourrez. Oh là là. Et puis malgré ça, ben, ils sont passés outre. Vous voyez, c'est quand même un péché de rébellion, si vous voulez, contre Dieu. Bref, vous connaissez la suite, donc les conséquences hein, de tout ce péché originel, ils ont tout perdu. Enfin, pas tout, la nature a été blessée, ils ont perdu bien sûr la grâce, et puis les dons qu'on appelle préternaturels que Dieu leur avait donnés. Donc ensuite, mais la souffrance, la mort, tu es poussière, etc. Concupiscence, domination des sens sur la volonté, etc. Bref, effectivement, là aussi, ces suites du péché originel sont une cause aussi de nos péchés, bien sûr. Et puis, dernière cause du péché, ce qu'on appelle le monde, non pas le monde dans le sens de l'univers, évidemment, mais le monde en tant que c'est la foule qui fait de la fortune, des honneurs et des plaisirs l'objet de son culte et sa fin dernière. Le monde en tant qu'il est opposé à Dieu. Et ce monde eh bien, cause des péchés par ses scandales, ses préjugés, ses maximes, par les terreurs qu'il inspire, ou par ses charmes séducteurs, le monde. Le monde aussi est une cause de péché, bien sûr. Alors, après avoir vu ces causes, la nature, les causes, eh bien, voyons maintenant la gravité du péché. Il y a un article de foi qui dit que tous les péchés ne sont pas égaux. Ça, c'est le Concile de Trente qui le définit contre précisément Luther et Calvin, contre les protestants. Non, le Concile de Trente nous dit que tous les péchés ne sont pas mortels. Il existe aussi des péchés véniels. Alors voyons d'abord le péché qu'on appelle mortel, le péché grave. Eh bien, le péché mortel, vous le connaissez, c'est l'offense de Dieu qui nous fait perdre son amitié et mérite la peine éternelle. Mortel qui donne la mort à la vie spirituelle. Voilà pourquoi on l'appelle mortel, bien sûr. Mort à la vie spirituelle. Nous avions la vie spirituelle, la vie de Dieu, que nous avions eue le jour de notre baptême, et voilà que par ce péché, nous la perdons. Donc c'est vraiment la mort spirituelle. Alors, savoir se rappeler pour ne pas tomber dans les scrupules non plus, savoir toujours se rappeler les trois conditions pour qu'il y ait péché mortel. La gravité de la matière, ce qu'on appelle matière grave. Ensuite, la pleine advertance de l'esprit, on est totalement averti, c'est-à-dire c'est la connaissance, pleine connaissance. Et puis, troisième condition, le plein consentement de notre volonté libre. Plein consentement. Alors la gravité, comment sait-on qu'une chose est matière grave? Eh bien, c'est connu d'abord par la révélation de Dieu, tout simplement, donc par la Sainte Écriture. Nous avons ça par la Sainte Écriture. L'Église qui précise, qui a reçu le dépôt de la révélation, donc qui va nous préciser, est-ce que ça c'est grave, ça c'est pas grave. Donc elle a l'assistance du Saint-Esprit pour nous dire c'est grave, pas grave. Bien sûr, la tradition aussi, c'est-à-dire les pères de l'Église, les théologiens, la raison éclairée par la foi, tout ça va permettre d'avoir dans notre catéchisme eh bien, les différentes sortes, on sait, ben, ça c'est grave, ça c'est pas grave, etc. Alors, disons, les péchés qui sont considérés comme graves de manière assez générale, c'est bien sûr tous les péchés qui attaquent Dieu directement, ou quelqu'une de ses perfections. Bon, évidemment, le blasphème, c'est toujours matière grave. Un blasphémé, évidemment, on s'en prend directement à Dieu. Donc, toujours matière grave. Adorer une idole, là aussi, évidemment, c'est matière grave. Donc, vous voyez, tous les péchés qui attaquent Dieu directement. Une autre catégorie de péchés aussi, ce qu'on appelle les péchés de luxure, sont matière grave. Tout ce qui s'oppose à la vertu de pureté. Bon, ça se comprend aussi. Pourquoi ? Parce que Dieu, vous voyez, a voulu l'union d'un homme et d'une femme pour procréer, pour donner la vie. Alors qu'effectivement, en soi, en théorie, Dieu aurait très bien pu créer chaque... Bon, il crée chacune de nos âmes, c'est entendu, mais il aurait pu créer en plus chacun de nos corps, en prenant des pierres, je ne sais pas quoi, comme Adam et Ève. Et etc., on serait tous apparus comme ça. Non, Dieu n'a pas voulu ça. Donc, il a voulu, eh bien, par cette union d'un homme et d'une femme, dans le mariage. Et là aussi, il a voulu une union stable. Donc, il a tout prévu pour cela. Parce que, bah, d'abord, par expérience, nous le savons, puis on voit bien, hein, l'éducation ne se fait pas en un jour. Donc, il faut pour l'enfant, eh bien, ce foyer familial, etc. Bref. Donc, ensuite, eh bien, Dieu a tout prévu. Bien sûr, vous savez, tous les organes, etc., prévus pour cela. Alors, évidemment, bah, utiliser ce que Dieu a prévu pour la procréation hors du mariage, eh bien, automatiquement, il va y avoir un désordre. Et il y a un désordre qui est grave parce qu'il s'agit d'une vie qui est en jeu, une nouvelle vie, qui peut-être, si elle va naître hors mariage, eh bien, n'aura pas les conditions pour être chrétien, etc. Donc, si vous voulez, c'est une matière grave. Et puis, évidemment, utiliser, bien sûr, tout cela dans un but autre que celui qui est prévu par le bon Dieu, eh bien, évidemment, encore une fois, il s'agit d'un désordre grave. Ensuite, quels sont d'autres péchés graves? Eh bien, tous les préceptes plus ou moins graves que l'Église définit comme graves, par exemple la messe le dimanche. C'est un précepte grave, hein, d'assister à la messe le dimanche. Alors après, bien sûr, il y a des causes excusantes, hein, ça c'est vrai, mais en soi, c'est un précepte grave. Ou le jeûne, bon, le jeûne maintenant, il n'est plus réduit à grand-chose, au moins le mercredi des cendres et le vendredi saint, ben, c'est matière grave. Volontairement, si on ne le fait pas, ben oui, il y a matière grave en tout cas. Et puis, il y a les péchés qui blessent gravement le prochain dans les biens de sa vie. Bon, ben, bien sûr, ça c'est le cinquième commandement, bien sûr, tuer, etc. La fortune, aussi, ben, voler, hein, voler des sommes importantes, ben, c'est sûr que c'est une matière grave. Réputation, là aussi, attention, on n'a pas le droit de nuire à la réputation d'autrui. « Oh, ma chère, vous savez, je vous dirai rien d'autre, mais vous savez, j'ai vu ce monsieur, vous voyez, il est allé avec sa secrétaire, je sais pas, je les ai vus rentrer dans un restaurant. Oh là, je ne vous dis pas plus que ça, mais vous savez, oh là 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 là. » Ah, le poison. Donc on insinue, et puis ensuite l'autre personne va répéter, et puis après ça va devenir l'adultère, quoi, carrément. Ah, bah, on n'a pas le droit. Ça, on va nuire gravement au prochain dans sa réputation. Ce qu'on appelle calomnie. Si c'est faux, bon, si c'est vrai, c'est ce qu'on appelle une médisance. Mais là, c'est matière grave, évidemment. Bref, voilà pour la gravité de la matière. Alors, bon, quand on ne sait pas, eh bien, évidemment, on se renseigne. Donc là, bon, ben, vous avez bien sûr des livres, ou alors tout simplement demander à votre confesseur. Ensuite, donc, connaissance. Donc ça, bon, la connaissance, on sait la gravité, on connaît la gravité. Donc il n'y a pas d'ignorance invincible, c'est sans faute de notre part. Ah ben, vraiment, vous ne savez pas. Alors vraiment, non, je ne savais pas. Bon, ça peut arriver. Bon, souvent là, encore une fois, vous voyez, on a des choses qui, bon, quand on connaît ou des personnes qui viennent, qui se convertissent, etc. Aujourd'hui, avec malheureusement les films, etc. Par exemple, il y a des gens ou des jeunes, ou par exemple les fiancés. Ah ben, je savais pas que. Ah ben, on nous avait dit pourtant, ben non, les fiancés, ben, quand on était fiancé, ça veut dire qu'on va se marier. Donc, on va se marier dans pas longtemps, donc on peut se comporter comme mari et femme. Il y en a, à la limite aujourd'hui, des gens qui. Bon, qui n'ont peut-être pas eu la bonne formation. Pour eux, c'est normal. Ils ne voient pas de mal. Ah ben non, de toute façon, fiancé, c'est normal, c'est presque pareil que le mariage, c'est quasiment pareil. Ben, vous avez une ignorance qui, de temps en temps, peut être effectivement invincible. Et bon, après, une fois qu'ils apprennent, bon, après, ils mettent les choses en ordre, mais c'est vrai que ça peut exister. Des gens, on a rencontre aussi comme prêtre, enfin, je me rappelle quelqu'un aussi qui n'avait jamais entendu parler de Jésus-Christ, par exemple. Jamais. Jésus-Christ, quoi? Dieu, c'est qui, ça? Enfin, c'est vrai que de temps en temps, bon, quand on a eu la chance d'être catholique, d'être élevé, alors pour nous, ça nous paraît invraisemblable. Mais quand on, quand par la grâce de Dieu, des âmes reviennent, c'est vrai qu'il y a des choses assez étonnantes, disons. Bah oui, donc en tout cas, pour qu'il y ait péché grave, il faut évidemment la pleine connaissance, hein, la pleine advertance de l'esprit. Et puis le plein consentement. Plein consentement, notre volonté libre donne totalement son consentement. Alors ça s'oppose bien sûr au péché, commis, par exemple, ce qu'on appelle dans le sommeil, les rêves, demi-sommeil, tout ça, ben non, on n'a pas plein consentement par définition, puisqu'on dort. Ah oui, mais je m'en souviens de mon rêve. Ah bah ben, oui, mais vous rêviez ou vous étiez réveillé? Ben non, je rêvais. Ben non, vous n'étiez pas éveillé. Ben non, donc il y avait un consentement. Ah non, je vous assure, je me suis réveillé, je serrais mon traversin, mais je le serrais vraiment. Je le serrais, mais puis, mais je pensais étrangler ma belle-mère. Mais oui, je vous assure, et puis j'avais envie de le faire. Ben non. Ah ben c'était que votre traversin. Ah zut. Bon, bref, donc. Non, là, oui, non, il faut le plein consentement. Alors, s'il manque une de ces conditions, hein, s'il n'y a pas matière grave, ou s'il n'y a pas pleine connaissance, ou pas plein consentement, ben évidemment, ça va être ce qu'on appelle un péché véniel. Alors, l'effet du péché grave, évidemment, ben, c'est l'effet horrible. Il chasse Dieu de notre âme. Hein. Perte de la grâce sanctifiante. Bon, vous aurez, je crois, une conférence sur la grâce, donc vous comprendrez encore un peu mieux ce que c'est que la grâce. Bien, dites-vous déjà, par le péché, on perd cette grâce. On perd tout, quoi. On perd tous nos mérites passés, toutes nos bonnes actions, ben, on perd tout. Et la conséquence, bien, évidemment, si on ne se convertit pas, ça sera l'enfer. Alors, bien savoir que ce péché mortel vraiment constitue un obstacle infranchissable à l'union avec Dieu. Car comme nous dit saint Thomas, c'est se détourner de Dieu pour se tourner vers la créature. C'est une très belle expression de saint Thomas et qui veut bien dire ce que ça veut dire. Si vous préférez en latin, je peux vous le donner. Aversio ad Deo et conversio ad creaturam. Aversio ad Deo, c'est-à-dire je me détourne de Dieu, conversio ad creaturam, je me tourne vers la créature. Mais je me détourne complètement. J'abandonne Dieu parce que je préfère la créature ou ma propre satisfaction. On peut chercher son propre plaisir aussi et se détourner complètement de Dieu, évidemment. Hein? Mais on abandonne Dieu. On se détourne complètement de Dieu. C'est ça le péché mortel. Là aussi, Dom Marmion, pour revenir à lui, voilà ce qu'il commente. Comment il le commente? C'est un acte connu, voulu, par lequel l'homme se détourne de Dieu, son créateur, son rédempteur, son père, son ami, sa fin dernière pour une créature quelconque. Dans cet acte, il y a le plus souvent implicitement, mais toujours essentiellement, un choix. Cette créature vers laquelle nous nous tournons devient notre choix pour le moment, en tant que cela dépend de nous. Et la mort peut nous fixer dans ce choix pour toute l'éternité. Je dis attention, implicitement, ça peut être implicite. C'est quand on commet un péché mortel, on n'a peut-être pas forcément explicitement vraiment la volonté de se détourner de Dieu. Attention, non. Parce qu'on peut être tellement pris par la passion, mais au départ, on sait très bien que ce qu'on va faire, c'est pas bien, mais on le fait quand même. Donc c'est là où on va se porter à se détourner de Dieu. Mais c'est pas forcément explicite qu'on veut vraiment, ah ben non, mon Dieu, je me détourne de vous, alors je fais ce péché. Non, on ne raisonne pas comme ça. On ne raisonne pas comme ça. Je sais pas. Je ne sais pas quelqu'un qui est pris par une passion, qui voit, je ne sais pas quoi, qui voit, je sais pas, un billet de 500 euros qui traîne. Voilà. Et puis, ah là, ici, j'ai pas eu le temps de faire ma robe, il faut que j'en achète une nouvelle. Paf, je prends le billet et je vais. Bon, là, vous allez bien, vous êtes obsédé. Ben non, je voulais une nouvelle robe, j'ai pris ce billet qui traînait par là, et puis voilà, je suis allé m'acheter une robe avec ça. Ben, en faisant ça, vous n'aviez pas la volonté explicite de vous détourner de Dieu. Mais néanmoins, est-ce que c'est un péché grave? Bah oui. Pourquoi? Bah c'est matière grave, 500 euros. Bah oui, c'est matière grave. Bah vous savez que c'est pas bien? Oui, bah oui, je sais que le vol, c'est pas bien, surtout ça. Et puis, vous l'avez fait librement? Bah oui, personne ne m'a forcé à faire ça. Donc, vous avez les trois conditions. Voilà donc ce qu'est le péché grave délibéré, un choix accompli les yeux ouverts. C'est comme si l'on disait à Dieu: Mon Dieu, je sais que vous défendez telle chose, qu'en la faisant, je perdrai votre amitié, mais je la ferai. S'unir à quelqu'un et se détourner de lui. Nul, dit notre Seigneur, ne peut servir de maître. On aimera l'un et on haïra l'autre. L'âme qui admet le péché grave préfère librement la créature qui est sa satisfaction à Dieu et à la loi de Dieu. L'union avec Dieu est complètement rompue et la vie divine détruite. Une telle âme devient l'esclave du péché. L'esclave du péché ne peut être serviteur de Dieu. Entre Bélial et Jésus, entre Lucifer et le Christ, il y a incompatibilité radicale et absolue. Donc l'âme n'a plus la vie divine, si vous voulez. Et le pire, c'est si la mort, évidemment, la surprend dans cet état, eh bien cet état d'aversion de Dieu devient alors immuable. Parce que du coup, la disposition dépravée de la volonté ne peut plus subir de changement. On est fixé. L'âme ne peut plus revenir au bien ultime dont elle s'est pour toujours séparée. Eh bien, l'éternité ne fait que ratifier, si vous voulez, et confirmer l'état de mort surnaturelle librement choisi par l'âme en se détournant de Dieu. Ce n'est plus le temps de la miséricorde, mais c'est celui de la justice. Justice terrible, bien sûr, bon, l'enfer, parce que Dieu venge ses droits jusque-là volontairement, hein, méconnu et obstinément méprisé, malgré les appels divins de la grâce. C'est pour ça qu'en celui qui est en enfer, eh bien, ceux malheureusement qui sont en enfer, ils savent pourquoi ils sont en enfer. Ils ne sont pas arrivés en enfer par hasard, non. Peut-être il y en a qui arriveront par hasard au ciel, ça c'est possible, mais en tout cas pas en enfer, non. En enfer, j'ai dit, c'est vraiment celui qui a péché gravement. Il sait pourquoi il sera en enfer. Alors, eh bien, si vous voulez, pour juger du péché mortel, il faut voir vraiment comment Dieu le châtie. Vous voyez, évidemment, si vous trouvez, malheureusement, on a du mal à détester le péché, eh bien, regardez comment Dieu châtie le péché. Pour les anges rebelles, eh bien, l'enfer, nos premiers parents, vous voyez, un péché mortel de nos premiers parents, vous voyez les catastrophes qui en sont, un péché mortel, Adam et Ève. Un seul péché, eh bien, vous voyez dans quelle galère on se trouve. Et oui, la mort, la souffrance, enfin tout, tout. Pour un péché. Puis surtout, bien sûr, mais là vous aurez l'occasion, on en parlera aussi, bien sûr, la passion de notre Seigneur. Là aussi, c'est, je veux dire, vous regardez un crucifix, on voit tout ce que Jésus a subi, eh bien oui, c'est à cause des péchés graves. Voilà, péché mortel, vraiment le seul vrai mal qui puisse exister. Alors le péché véniel aussi, qu'est-ce qu'on appelle le péché véniel? Eh bien, c'est une offense à Dieu, bien sûr, qui ne fait pas perdre son amitié et ne mérite qu'une peine temporelle. Que veut dire véniel? Ben, ça vient de venia, en latin, qui veut dire le pardon. Pourquoi on l'appelle véniel? Parce qu'il se pardonne plus facilement que le péché mortel, bien sûr. Donc ces fautes n'empêchent pas par elles-mêmes l'union essentielle avec Dieu. Elles diminuent pourtant la ferveur de cette union. Elles ne coupent pas, hein, on ne se détourne pas complètement de Dieu, si vous voulez. Mais elles dérivent d'une complaisance dans la créature. Il y a quand même une défaillance de notre volonté. D'un fléchissement un peu de notre amour, de l'intensité de notre amour pour Dieu. Vous voyez quand même quelque chose. Notre ferveur se diminue quand même, diminue. Alors même au niveau des péchés véniels, je pense qu'il y a une distinction importante à faire. On peut distinguer deux choses. Les fautes, ce qu'on appellerait les fautes de surprise, qui résultent de notre tempérament. Tel tempérament, eh bien, c'est un peu ces fautes qui reviennent, que nous regrettons, nous cherchons à éviter. Bon, prenons un exemple dans la vie courante, hein, très simple. Alors que vous avez les enfants qui reviennent, etc., qui rentrent. Ah, comment? Ah non! Ah, les garçons, vous êtes pénibles quand même! Ah non! Vous avez vu dans quel état vos culottes? Ah, vos belles culottes blanches du dimanche, maintenant elles sont toutes vertes, vous êtes roulées dans l'herbe encore. Mais combien de fois je vous l'ai dit? Ça suffit comme ça, etc. Ah, non, quand même, voyons. Oui, maman, oui, maman, oui, maman. Puis alors, bon, alors ils ressortent, puis ils reviennent 4 minutes après. Ah, comme, ah non, maintenant vous êtes plein de boue, vous êtes roulées dans la boue. Bah oui, c'est pas l'herbe. Ah non, non, ça suffit. Alors, puis vous explosez, enfin bref, etc. Ça, c'est le péché de surprise, quoi, l'agacement. Quoi, l'agacement. Ah, les enfants, ah, les garçons sont toujours sales, etc. Bref. Oui, faute de surprise. C'est vraiment, on se fait avoir par notre impatience. Mais je peux vous rassurer, ce sont des misères qui n'empêchent quand même pas l'âme d'arriver à un haut degré d'union divine. Bon, non pas que je vous pousse à être impatiente, mais ces impatiences, par exemple, vont être effacées comment ? Ben, par des actes de charité. Ah, mon Dieu, encore. Mon Dieu, je vous aime. Mon Dieu, je vous aime. Ou par des bonnes communions, et va nous maintenir dans l'humilité. Ah oui, ah, je me suis encore patienté. Ah. Donc, vous voyez, ces fautes, bien oui, elles nous maintiennent dans l'humilité. Donc ça, ce n'est pas un empêchement à l'union divine. Non, ce qu'il faut craindre, ce sont les fautes vénielles qu'on appelle d'habitude ou pleinement délibérées. Celles qu'on fait exprès. On sait que ce n'est pas bien, mais on le fait quand même. Là aussi, vous êtes dans Marmion qui donne, dans Chris Vidlam, toujours, très beau commentaire. Ces fautes vénielles délibérées sont souvent un pas, trop souvent réel, vers la rupture complète avec Dieu. Quand une âme est habituée à répondre pratiquement, sinon de bouche, un non délibéré à la volonté de Dieu, en matière légère, puisqu'il s'agit de péché véniel, elle ne peut prétendre à sauvegarder en elle pendant longtemps l'union divine. Pourquoi cela ? Parce que de ces fautes froidement admises, tranquillement accomplies, qui passent sans que l'âme sente du remords, à l'état d'habitude non combattue, résulte nécessairement une diminution de docilité surnaturelle, une diminution de vigilance, une diminution de notre force de résistance à la tentation. L'expérience montre que d'une suite de négligences voulues dans les petites choses, nous glissons insensiblement, mais presque toujours fatalement, dans les fautes graves. Donc attention. Donc attention à ça précisément, ces fautes vénielles délibérées. Ça, elles sont dangereuses pour notre vie spirituelle. Donc ces petites désobéissances voulues, insultes à Dieu, etc. Mais si vous voulez, on met quand même en balance notre propre volonté et notre caprice. Ah ben non, moi je veux faire ça. Et sainte Thérèse d'Avila disait ceci, « C'est comme si l'on disait, Seigneur, bien que cette action vous déplaise, je ne laisserai pas de la faire. Je n'ignore pas que vous la voyez, je sais parfaitement que vous ne la voulez pas. Mais j'aime mieux suivre ma fantaisie et mon attrait que votre volonté. Et ce serait peu de chose que d'agir de la sorte. Pour moi, si légère que soit la faute en elle-même, je trouve au contraire que c'est grave et très grave. » Alors, eh bien, profitons bien de cette retraite eh bien, pour demander et obtenir un peu cette haine du péché. Donc, sachons vraiment profiter pour voir n'avoir plus des complaisances dans le péché. Bien sûr, il y a des degrés de la mort du péché, au péché. D'abord, je crois, le premier degré, c'est-à-dire essentiel, c'est bien sûr le renoncement complet au péché mortel. Ça, c'est évidemment le premier degré. Parce que sans cela, eh bien, la charité divine ne peut pas vivre en nous. Donc ça, bien sûr, le premier degré essentiel dans toute vie chrétienne. D'abord, renoncer absolument, complètement au péché mortel. Ensuite, degré suivant, eh bien, renoncer très fermement au péché véniel délibéré. Donc celui qui est fait exprès. Tard, c'est toujours une offense à Dieu, bien sûr. Donc ne pas l'admettre sous quelque prétexte que ce soit. Sinon, bien, le risque, c'est de la tiédeur. On tombe dans la tiédeur spirituelle et qui ensuite peut malheureusement nous entraîner de nouveau au péché grave. Et puis, troisième degré, bien, quand on monte petit à petit, bien, poursuivre l'extirpation du péché jusque dans les derniers replis de l'âme. Vraiment chercher à combattre ensuite bien, toutes nos défauts, ces fautes de surprise, vous voyez, dont je vous ai parlé. Bien, ensuite, on essaie de s'attaquer à cela pour qu'il y ait moins de surprises. Et puis, si vous voulez aussi, deux autres considérations pour nous aider à avoir cette haine du péché, ben, savoir méditer sur la mort, en disant, ben oui, la mort, de toute façon, c'est la seule chose de sûre, certaine, elle est imprévisible, puis nous serons séparés définitivement du monde. Donc là, on remet les choses sous son vrai jour. Pourquoi s'attacher à des biens que nous abandonnerons ici-bas ? Vous voyez, considération. Et puis aussi, ce passage de l'imitation de Jésus-Christ qui de temps en temps peut être une considération qui peut nous arrêter sur la route du péché grave, c'est savoir méditer peut-être sur la peine éternelle aussi de temps en temps, la peine éternelle du péché. Voilà ce que dit l'imitation de Jésus-Christ. Alors ça, c'est le livre premier, chapitre 24. au paragraphe numéro 7. Si vous aviez vécu jusqu'à ce jour dans les honneurs et les voluptés, de quoi cela vous servirait-il s'il vous fallait mourir à l'instant? Donc tout est vanité, or aimer Dieu et le servir lui seul. Car celui qui aime Dieu de tout son cœur ne craint ni la mort, ni le supplice, ni le jugement, ni l'enfer, parce que l'amour parfait nous donne un sûr accès près de Dieu. Mais celui qui aime encore le péché, il n'est pas surprenant qu'il redoute la mort et le jugement. Cependant, si l'amour ne vous éloigne pas encore du mal, il est bon qu'au moins la crainte du feu vous retienne. Celui qui est peu touché de la crainte de Dieu ne saurait longtemps persévérer dans le bien, mais il tombera bientôt dans les pièges du démon. Alors, il faut que ça soit ensuite, bien sûr, cette crainte qui ne soit pas servile, uniquement servile, mais cette crainte filiale, cette crainte d'offenser le bon Dieu, parce qu'on ne veut pas l'offenser, précisément, un Père infiniment bon. Et puis, bien, en conclusion, sachons, souvenons-nous que dans cette vie, tant que nous sommes dans cette vie, eh bien, notre Seigneur exerce toujours sa miséricorde. Toujours sa miséricorde. Le pire péché, justement, c'est de ne pas croire, de ne plus croire dans la miséricorde de Dieu. Non, ça c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Au contraire, bien toujours se rappeler sur cette terre, notre Seigneur exerce toujours sa miséricorde. Alors, bien, sachons recourir à lui et restons toujours sous la protection de Notre-Dame, forte comme une armée rangée en bataille, et qui nous aidera bien sûr à vaincre le péché.